France Info. France Info. 20h, 21h, France Info, les informés. Jean-Mathieu Pernat.
Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag les informés, également sur le canal 27 de la TNT. Alors à France Info, on n'a pas les moyens d'aller dans une école maternelle pour faire des émissions. Alors je place à côté de moi ce dessin d'un stagiaire envoyé à Emmanuel Macron. Bisous, voilà en tout cas. Voilà, c'est une analyse comme une autre en tout cas, bravo à lui. Et je le mets ici, je pense à toi, cher stagiaire. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent Isabelle Véramasson. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice du laboratoire communication et politique du CNRS, Sylvain Courage, bonsoir,
bonsoir.
De l'Obs, Mathieu Alterman, bonsoir,
bonsoir,
du Point Pop, et Jannick Halimi, bonsoir,
bonsoir,
du Parisien aujourd'hui en France. Et ce soir, nous reviendrons largement, bien sûr, sur l'interview d'Emmanuel Macron sur TF1, SNCF, nouveau jour de grève. Mais juste avant, nous recevons Jean-Dominique Merchet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste à l'Opinion, auteur du blog Secret Défense. Avec nous, nous allons revenir sur la possible frappe occidentale contre la Syrie suite au bombardement présumé chimique à Douma samedi dernier. Alors souvenez-vous, on en a parlé déjà hier, dans un tweet, Donald Trump menaçait le principal allié de Damas, à savoir la Russie, en ces termes, prépare-toi Russie parce que ces missiles, ils arrivent, beaux, nouveaux et intelligents. Et puis, 24 heures plus tard, nouveau tweet du président américain, jamais dit quand une attaque contre la Syrie pourrait avoir lieu, cela pourrait être très bientôt ou pas, si tôt que cela. Dans tous les cas, les États-Unis sous mon administration ont fait un super boulot pour débarrasser la région de l'État islamique. Où est le merci l'Amérique? Alors, on ne sait pas si entre ces deux messages, Donald Trump a retrouvé son exemplaire de la diplomatie pour les nuls. Mais Jean-Dominique Merchet, qu'est-ce qui s'est passé pour le président américain en 24 heures? C'est-à-dire, c'est le Pentagone qui lui a dit...
Alors, les mystères de l'esprit de Donald Trump, pardonnez-moi, mais là, ça dépasse totalement ma compétence.
Est-ce que vous pensez que c'est le Pentagone derrière qui lui a
dit... Oui, je pense qu'il y a quand même des gens qui l'ont... Écoutez, monsieur le président, il faudrait quand même qu'on rectifie le tir. Mais alors, comment ça s'est passé? Là, vraiment, effectivement, le tweet d'hier était incroyable.
Oui.
Je veux dire, on avait jamais vu ça. Moi, ça me faisait penser à Docteur Follamour, vous savez, comment j'ai appris à ne plus m'en faire et à aimer la bombe. Voilà. On était dans ce... Ben oui, mais le problème, c'est que c'est le président des États-Unis, c'est pas Stanley Kubrick, quoi. Donc, là, honnêtement, je veux dire, voilà, on est dans les mystères de la psychologie.
Aujourd'hui, quand on parle d'intervention, comment, s'il y a intervention, comment cela se passerait-il, en fait? C'est-à-dire que ce sont des frappes comme on a connu la dernière fois depuis un bateau au large. Comment ça se passe?
Oui. Alors, vraisemblablement, enfin les scénarios les plus probables, c'est effectivement des tirs de missiles de croisière. Pourquoi? Parce que le missile de croisière, ça a cet avantage de pouvoir être tiré de loin, à plusieurs centaines de kilomètres. Ça évite donc de pénétrer dans l'espace aérien syrien. On peut le tirer depuis la Méditerranée, on peut le tirer soit d'un bateau, on a des bateaux, les Français ont un bateau qui peut faire ça, soit depuis des avions qui viendraient de France et qui feraient sans doute l'aller-retour en ravitaillement en vol. C'est quand même des choses qui se font, c'est pas des exploits extraordinaires, c'est compliqué mais ça se fait. Donc oui, c'est le plus probable, parce que rentrer dans l'espace aérien syrien, là, c'est assez compliqué. Les Israéliens y rentrent régulièrement, ils ont quand même perdu un avion il y a quelques semaines, donc on n'a pas vraiment envie de jouer à ce jeu-là.
Alors, en début d'interview ce midi, justement, sur TF1, où Emmanuel Macron était interviewé, il s'est fait d'ailleurs assez précis, puisque vous le savez, ce sont cette fameuse ligne rouge dont on parle depuis Barack Obama sur les armes chimiques, et apparemment, pour Emmanuel Macron, eh bien désormais, il n'y a plus de doute, on écoute Emmanuel Macron.
Nous avons la preuve que la semaine dernière, maintenant près de 10 jours, des armes chimiques ont été utilisées, au moins du chlore, et qu'elles ont été utilisées par le régime de Bachar el-Assad.
Donc ce sera la cible d'éventuelles frappes.
Quand nous le déciderons et une fois que nous aurons vérifié toutes les informations, on ne peut pas laisser aujourd'hui des régimes qui se croient tout permis, et en particulier le pire, en contravention du droit international, agir.
Donc en effet, voilà, c'était Emmanuel Macron, donc au journal de 13h. Ça veut dire quoi, Jean-Dominique Marchais, ces interventions alors?
Là encore, vous voyez bien que le président de la République est prudent dans ce qu'il dit. C'est-à-dire, il dit à la fois, il affirme quelque chose, il affirme, il y a eu une attaque chimique, ce qui est manifeste quand même, de la part du régime, ce qui semble être également le cas. Et il dit, mais on vérifie quand même. Mais on vérifie quoi, au juste? On vérifie sans doute, en principe, qui a donné l'ordre. Mais ça, peut-être qu'on ne le saura jamais. En 2013, quand il y avait eu cette précédente attaque sur la Ruta et pas de frappe, les services occidentaux n'ont jamais su qui avait donné l'ordre. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est Bachar el-Assad, son frère, un élément à faire. Donc, parfois, on n'arrive pas à savoir. Donc là, on est dans la situation où, au fond, il faut prendre une décision politique, il faut prendre un risque. Le risque, c'est effectivement de faire une frappe et, dans cette frappe, éventuellement, de tuer des Russes ou des Iraniens.
Et c'est ça.
On se retrouverait un peu comme gros gens comme devant si on le faisait. Parce que moi, je serais russe pour dissuader une frappe française, je mettrai aujourd'hui des soldats russes partout à Damas. Dans tous les sites susceptibles d'être frappés, je mettrai des soldats russes. En disant, et maintenant, les gars, est-ce que vous osez venir ?
Jeanne Calimi, est-ce que vous l'avez trouvé prudent, là, justement, Emmanuel Macron, quand il parle ? Parce que, quand même, là, lui, il dit directement, on a les preuves.
Bah, si le président de la République le dit, là, je pense que on peut lui faire crédit. Après, c'est peut-être de la naïveté de ma part, mais enfin, bon, c'est un homme responsable sur ce point-là. Il a été précis. Là où il est prudent, pour reprendre votre question, effectivement, c'est sur la date d'intervention. Il a été très, très flou, alors qu'à partir du moment, comme vous le disiez, où la ligne rouge était franchie et que, vraisemblablement, on en avait la preuve, il pouvait y aller, sauf qu'il n'y va pas pour plusieurs raisons, on les a évoquées. La France ne peut évidemment pas y aller toute seule.
Non, d'ailleurs, ça serait, en gros, ça pourrait être entre les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne.
Et la Grande-Bretagne. Mais entre-temps, vous l'avez souligné, Donald Trump a, semble-t-il, changé d'avis. Angela Merkel, aujourd'hui, vient de dire qu'elle n'y allait pas. Il fallait avoir l'accord de la participation de l'Angleterre. Or, Theresa May vient de dire qu'elle n'en a pas demandé l'autorisation du Parlement, ça pourrait accélérer les choses, mais il a fallu attendre. Et dernier point, vous parliez, Monsieur Mercher, de victimes russes qu'il fallait éviter, mais c'est que justement sur ces dernières heures, le ton de la Russie a énormément augmenté. Déjà, c'est haussé. Ils ont bloqué des résolutions au Conseil de sécurité. Ils ont fait monter au créneau leur ambassadeur au Liban, disant que si l'Amérique ou la coalition, je ne sais plus exactement, les Occidentaux attaqués, la Russie répliquerait. Donc voilà, tout ce qui explique, la prudence de la France.
Ils viennent même chatouiller les bateaux français qui sont en Méditerranée orientale.
C'est-à-dire
que ils ont des postures un peu, non pas agressives, mais ils viennent dire, écoutez les gars, on est là.
La Russie fait que devient très prudent. Allez, on va continuer à en parler dans un instant. L'info à 20h10, c'est Marc Potvin.
Depuis 10 minutes, la grève des cheminots a repris. Troisième épisode du mouvement perlé. La SNCF a donné ses prévisions pour demain. Du côté des TGV, il y aura un train sur trois. En moyenne, l'axe Atlantique sera le plus touché avec un TGV sur quatre en circulation. Les cheminots font grève contre la réforme du rail. Elle a été évoquée ce midi par le président de la République. Sur TF1, Emmanuel Macron affirme qu'il ira jusqu'au bout de sa réforme. Les cheminots ont été pointés du doigt par certains membres du gouvernement ces dernières semaines. C'était une erreur, estime le président. Après trois semaines d'audience, le tribunal correctionnel de Paris a rendu son jugement dans le procès Tarnac. Les deux principaux prévenus, Hildune Lévy et Julien Coupa, sont relaxés du chef d'association de malfaiteurs et dégradation d'une ligne SNCF. Le groupe de Tarnac était une fiction, déclare le tribunal. Les bombes ont explosé au passage d'un cortège funéraire à l'entrée d'un cimetière. Un attentat a frappé le village d'Azdira dans le nord de l'Irak aujourd'hui. Il y a au moins 16 morts et 14 blessés. Le cortège funéraire transportait des combattants irakiens tués hier par le groupe État islamique. Et puis en football, quart de finale retour de Ligue Europa ce soir. L'Olympique de Marseille est le dernier club français en compétition. Il affronte Leipzig à partir de 21h05. Une qualification en demi est à la portée des Marseillais. À l'aller, ils ont été battus par le plus petit des scores, 1-0.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, encore un mot de cette éventuelle intervention des forces occidentales sur la Syrie. Jean-Dominique Merchet, si intervention il y a dans les heures ou les jours à venir, quelles seraient les cibles aujourd'hui? Alors, qu'est-ce qu'on cible dans
la France dit explicitement, nous n'allons viser que les capacités chimiques du régime. C'est-à-dire, nous n'allons pas nous en prendre au régime, non pas nous prendre, par exemple, à Bachar, à son siège du gouvernement, à des forces militaires, celles qui bombardent. Parce que, au fond, on pourrait aussi se dire, on va empêcher Bachar de lancer des barils, de torturer les gens dans les prisons. Mais ça, on s'en moque totalement. Parce que la seule chose qui nous intéresse, ce sont les armes chimiques. Donc, il s'agit de désarmer les capacités des armes chimiques. Donc, on visera des sites. Est-ce que les Américains, eux, se contenteraient de ça? Ça, c'est pas sûr. Parce que les Américains sont dans une logique de confrontation avec les Iraniens, qui sont très présents sur le sol syrien. Et donc, peut-être que les Américains ont une autre idée que les Français. Mais ça, on peut pas le savoir.
Mathieu Alterman.
Non, moi, la question que je me pose bêtement, c'est est-ce que Poutine n'est pas en train de lâcher, finalement, Assad? C'est pas la prochaine étape qui va se produire. Ouais, voilà, je pense que c'est tout à fait possible que, effectivement, les Iraniens sont très présents. Il va demander à Israël de s'occuper du problème des Iraniens présents sur place. Au final, il fera rien.
Et Jean-Dominique Kirchner, est-ce qu'on est toujours dans soutien absolu?
Je vois pas tellement Poutine se dégager de Syrie alors qu'ils sont en train de gagner la guerre. Oui. C'est nous qui avons perdu la guerre.
Non, pas se dégager, mais se désolidariser, en tout cas de ne plus soutenir Assad comme il le faisait jusqu'à
pourquoi
présent.
Pourquoi le ferait-il?
Pour remplacer par quelqu'un d'autre.
Que les Russes n'aiment pas Assad. Ça, c'est sûr.
Voilà.
Il les embête depuis le début. Les Russes veulent maintenir l'État. Sauf qu'ils n'ont jamais trouvé le relais. Quelqu'un pour prendre la place. Si on était... Parce qu'on n'est plus en 1979, lorsque les Russes, par exemple, arrivaient en Afghanistan, soi-disant pour sauver le régime, la première chose qu'ils faisaient, ils envoyaient un officier du KGB à la présidence de la République, mettre une balle dans la tête du président de la République et installer quelqu'un à sa place. Mais ça, c'est fini. Les États... Les grandes puissances n'ont plus cette capacité d'agir. C'est fini. C'est un autre monde, ça. Aujourd'hui, un acteur comme Bachar el-Assad a des capacités d'autonomie par rapport à ses différents alliés, et il en joue, l'Iran ou la Russie notamment, pour lui permettre de, lui, d'avoir une action politique.
J'imagine, bien sûr, qu'on en reparlera, bien sûr, prochaines heures et dans les prochains jours. Merci beaucoup, en tout cas, Jean-Dominique Merchet, journaliste L'Opinion et auteur du blog Secret Défense. Merci d'être passé ce soir aux informés de France Info. Allez, on va parler, bien sûr, de l'interview, dont tout le monde parle depuis quelques jours. Mais vous savez, faire une interview du président de la République dans le journal de 13h, bon, pourquoi pas? Que cette interview soit réalisée par Jean-Pierre Pernaut. Pourquoi pas? Qu'elle se déroule dans le village normand de Berduis, bon, mais pourquoi pas? Mais dans une classe d'école, alors là, c'est un souci, un vrai problème, car une classe maternelle est remplie de dessins. On a parlé de petits mots, d'indications et de mille couleurs. Et pendant une heure, quel spectateur, mais quel téléspectateur n'a pas cherché à comprendre le sens des dessins ou à décrypter les petits messages? C'était infernal. Par exemple, moi, au moment de la CSG, j'ai découvert que le message écrit sur le mug posé sur le bureau était « Ma maîtresse est la plus géniale du monde ». Voilà, j'avoue ne pas avoir compris le rapport avec les 80 km/h, la SNCF ou les hôpitaux. Bref, le président de la République a assuré le service après-vente de ses réformes et ça n'a pas plu à tout le monde, comme le député insoumis Adrien Quatennens.
Emmanuel Macron aurait pu montrer qu'il avait bien pris la température de ce qui se passe dans le pays. Peut-être aurait-il pu marquer quelques inflexions, non pas parce qu'il souhaite reculer sur son programme, ça on l'a bien compris, mais parce qu'il aurait compris l'impasse dans laquelle nous mène finalement le modèle qu'il souhaite poursuivre à plein régime. Mais son intervention a bien montré que, droit dans ses bottes, en retirant les mêmes ficelles qu'il avait déjà tirées par le passé, reprenant notamment la fameuse métaphore de la cordée ou réaffirmant qu'il fait ce qu'il a dit, en réalité, il montre bien une chose, c'est qu'il est complètement aveuglé par l'idéologie libérale qu'il veut appliquer à plein régime.
Voilà, Adrien Quatennens, député de la France Insoumise. Isabelle Verramasson, au départ, juste sur la forme, est-ce que d'après vous, quand vous avez regardé cette interview, ça servait à quelque chose de voir ces deux hommes assis sur deux chaises dans une classe d'école maternelle dans l'heure?
Alors, il y a eu deux moments dans ma réalisation. D'abord, au départ, j'ai trouvé que c'était pas si bête. Casser un peu la communication avec les ors, vous savez, les ors de la République derrière soi. On en avait un peu assez, c'était gênant. Là, il sortait, il allait voir autre chose. Et je pensais qu'on allait voir une vraie classe avec une carte de France. Vous savez, Vidal Lablache derrière. Avec
ça n'existe plus.
Depuis 1962.
Moi, j'étais prête à la voir. Et je voyais porter un message du type le président de la République va être pédagogue. Et puis, il rappelle que l'école est le fondement de la République et également qu'il allait faire il y avait une très belle phrase qui était contre l'obscurantisme, la pédagogie, l'école est le meilleur moyen. Donc c'était porteur d'un message. Et là, quand j'ai vu les images, on n'était pas du tout dans une école de ce type-là, ni 3e, ni 4e République, on était dans une crèche. Mmh. Une crèche dans le sens d'une école de petits.
Maternelle, oui.
Maternelle, de, mmh. avec des couleurs, avec des dessins. Il ne s'agissait pas de faire de la pédagogie ou de la transmission, mais faire de l'animation, et une animation totalement en contradiction, me semble-t-il, avec ce dont on allait parler, on a commencé par la guerre en Syrie,
oui.
avec la projection, d'un, on l'a vu d'ailleurs tout à l'heure dans votre émission, c'est un bébé mort, fait, ensanglanté, oui, donc... sur ces reproductions de dessins et tout à fait adorables, il y avait là quelque chose qui était presque indécent, presque gênant. Et tout l'interview s'est fait comme ça, au milieu d'un désordre enfantin dans lequel on allait quand même parler de la grève, de la violence à l'égard des zadistes ou des zadistes à l'égard de la chantière. Enfin, un message totalement brouillé, tout à fait bizarre et qui, à mon avis, contredisait à chaque instant ce dont parlait le président de la République, à moins que ce soit ça le message.
C'est ça, alors. Ouais.
C'est-à-dire, peut-être voulait-il alors, dire, je suis gentil, je suis d'un doux, et pourtant, je vais vous dire non à tout ce que vous m'en demandez.
C'est d'accord. Est-ce qu'on est là-dedans? Est-ce que vous aussi, vous avez quand non, la perception, voilà, juste au départ
L'utilisation du symbole, déjà, ça a fait parler de cette interview, donc bon, pour la faire connaître. Ensuite, c'est un lieu sacré où, voilà, de la République. C'est même un endroit où on va voter, les écoles. Donc, ouais. C'est un lieu vraiment investi d'une certaine solennité, presque. Et c'était aussi une façon de se montrer en pédagogue. Alors, ça, c'est un peu lourd, peut-être, c'est-à-dire d'expliquer les choses, d'adopter un ton compréhensif. Et finalement, moi, j'ai trouvé que Macron et Pernault s'en sortaient pas si mal dans ce décor qui, au départ, effectivement, était un peu bizarre.
Bizarre, voilà. Oui, c'est pas le terme.
Ils n'ont même pas chanté du Henri Dess.
Oui,
à un moment, je m'étais dit, il va y avoir quelque chose.
C'est pas faux.
Le mot du jour, c'est carabistouille.
Ah bah oui, bien sûr.
Carabistouille, il a employé ce mot-là qui a fait rire tout le monde. Moi, la seule chose que je retiens, en fait, c'est que, je sais pas si vous vous souvenez, le prédécesseur de Pernault, c'était Yves Mourouzi. Yves Mourouzi restait célèbre parce qu'il s'était assis sur le bureau de François Mitterrand. Et finalement, 35 ans après, bah, on se retrouve dans une école maternelle. En fait, c'est comme s'il y avait un retour en arrière dans la symbolique. Je vais pas dire le mot pétainiste parce que c'est excessif et c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais vous voyez ce que je veux dire? Il y a un côté.
Vieille France, quoi.
Vieille France, voilà.
Et en même temps. Les 50, quoi. Les choristes.
Voilà, les choristes. Et en même temps. Il parle de tout, mais pas du tout des désertions dans les campagnes où les gens attendaient là-dessus. Et il dit pas un mot là-dessus. Donc,
bon. Alors, il a dit un petit mot là-dessus, mais ça, on va en parler dans un instant, parce que comme ça, on ne sera pas trop en retard ensuite, parce que vous savez, c'est le problème dans les informés de France Info. Allez, l'info à 20h20, c'est Marc Potvin.
La priorité, c'est d'éviter le danger d'une guerre, déclaration de l'ambassadeur russe à l'ONU, alors que plusieurs pays occidentaux planchent sur une réponse à l'attaque de Douma. La France n'a pas encore arrêté son choix. Ce midi, sur TF1, Emmanuel Macron a déclaré qu'il a des preuves que des armes chimiques ont été utilisées lors de cette attaque. Le président qui est aussi revenu sur les expulsions dans la ZAD à Notre-Dame-des-Landes. Tout ce qui était évacuable a été évacué, indique le président. En début d'après-midi, une dizaine de gendarmes a été blessée sur la ZAD. D'après le ministère de l'Intérieur, ils sont tombés dans une embuscade. Côté zadiste, on parle plutôt d'un face-à-face sur une barricade. Un discours du préfet, des merci et des bravos adressés aux employés. Une cérémonie a précédé la réouverture du Super U de Trèbes ce matin, 3 semaines après les attaques terroristes de l'Aude. 3 des 4 victimes de ces attaques ont été tuées dans ce supermarché. Le CSA nomme Sybille Veil à la tête de Radio France. Son mandat de 5 ans débutera lundi prochain. Elle remplace Mathieu Gallet, révoqué par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Jusqu'à présent, Sybille Veil était directrice déléguée de Radio France en charge des opérations financières. Et puis, 4 films français en compétition cette année au Festival de Cannes. En guerre de Stéphane Brisé, Plaire, aimer et courir vite de Christophe Honoré, Les filles du soleil d'Eva Husson et le livre d'images du franco-suisse Jean-Luc Godard.
France Info.
20h, 21h, les informés. Jean-Mathieu Pernin.
Les informés transformés. Oui, Jean-Luc Godard. Et oui, il est en compétition, Jeannick Alimi. Voilà. Et oui, il revient. Voilà.
Je suis très heureuse.
Vous savez, la chose en plus qui est assez amusante, c'est qu'à l'époque, en 68, ils avaient annulé le Festival de Cannes avec François Truffaut. Exactement. Nous, on était justement, alors on ne sait pas si on était en 68, voire plus vieux, comme disait Mathieu Alterman dans cette interview de cette école, d'Emmanuel Macron. Justement, Jeannick Alimi. Donc, c'est un JT, le JT de 13h. C'est le plus suivi, bien sûr, à 13h. 5,3 millions de téléspectateurs, essentiellement, pas que des retraités, des habitants hors des grandes villes. Et il a tout de même un peu parler de ruralité, parce qu'il a dit, pour lui, Emmanuel Macron, il a expliqué qu'il y avait, ça n'existait pas, la fracture entre la France des villes et la France des champs. Est-ce que c'est réaliste de dire ça, d'après vous? Ou c'était un élément de com'?
Je ne sais pas si c'est un élément de com', c'était peut-être une façon d'éviter le problème. En tout cas, ça lui a permis effectivement de ne pas parler, vous avez raison, de là où on l'attendait, de solutions ou de pistes de réformes, d'annonces même concrètes sur lesquelles on pouvait l'attendre, puisque... il était dans cette école et dans ce petit bourg pour justement parler de fracture rurale parce que c'est c'était ça. Le symbole de ces terres oubliées.
Le président des villes,
loin, voilà, le président des villes qui ont voté, surtout dans cette petite ville, très fortement pour Marine Le Pen et également pour François Fillon, dont des terres un peu de conquête politique, mais aussi des terres de conquête sociale, de fossés à combler, effectivement. Et il a été quand même extrêmement léger. Il a seulement dit que les dotations aux collectivités locales étaient gelées, donc n'avaient pas baissé. Il avait parlé d'investissement dans les zones périurbaines, etc. Sauf que quand vous parlez aux élus locaux, ils vous demandent où est l'argent. Je l'ai trouvé, pour le coup, un peu court.
On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de fracture. On avait parlé autour de cette table, il y a quelques mois, du problème de la médecine, notamment des gynécologues.
Oui,
il y en avait deux par département, enfin des choses épouvantables. Voilà, il y a une fracture, clairement, là-dessus.
C'est ça.
Il illude complètement le sujet, alors que, bon...
Alors, Isabelle Vermasson, on a souvent dit aussi, ce genre d'exercice qui arrive, selon Nicolas Sarkozy ou François Hollande aussi, l'a fait, mais est-ce que c'est pas un peu toujours du service après-vente, en fait? En gros, Emmanuel Macron est l'avocat de ces réformes, en gros, et vient en parler, tout simplement, sans véritable contradiction.
Alors, il y a plusieurs types de journalisme, hein, et Emmanuel Macron essaye de tous les essayer. Et à chaque fois, il est critiqué d'ailleurs. Mais enfin, bon, en tous les cas, aujourd'hui, évidemment, c'est un journalisme de consensus. Il ne s'agissait pas pour Jean-Pierre Pernaut d'attaquer le président, mais de lui donner la parole, de poser les questions, de lui permettre de s'expliquer dans un contexte qu'ils avaient choisi à deux. Les thèmes avaient été fixés, c'était des thèmes d'actualité, c'était pas des thèmes qui touchait aux grandes questions mondiales ou même françaises, parce qu'il va y avoir un deuxième temps.
Dimanche
soir, ce sera un autre type de journalisme qui sera beaucoup plus incisif, beaucoup plus combatif. On parle d'un spectacle, on parle de combat. Ouais. Jean-Jacques Bourdin a déjà expliqué après le fameux de Delahousse qu'il allait mener le combat. Et d'ailleurs, on avait reproché à Emmanuel Macron de ne pas aller assez face aux journalistes de combat. Là, il y va. Donc, et là, probablement, les sujets seront beaucoup plus larges, beaucoup plus ambitieux, plus philosophiques, plus à sa mesure. On avait le sentiment qu'il passe de la crèche à l'université. Donc, je crois qu'il faut comprendre tout cela comme une stratégie de communication qui n'est pas de droite, qui n'est pas de droite ou de gauche. Il n'y a pas là de clivage politique, mais plutôt des modes de faire venir une vérité qui serait entre la communication politique classique et la communication politique journalistique.
Mathieu Tarin,
c'est un petit peu dangereux. Parce qu'on a un peu l'impression que dans 15 jours, il va aller en boîte de nuit avec Thierry Ardisson au bain douche.
Il teste tout.
On a l'impression que c'est un parc d'attractions qui s'appelle Média et qui fait à chaque fois tout. Alors, il est bon dedans, mais.
On peut aussi considérer qu'il parle, qu'il utilise tout le vocabulaire de la communication politique.
C'est que ça se voit.
Et je ne crois pas que les boîtes de nuit se fassent partie
de ce vocabulaire. Non, mais on se souvient. Pour une chose plus simple, on l'avait vu, les coups de téléphone à Cyril Hanouna, tout simplement.
Oui, c'est ça. Voilà.
Ah, mais c'est la télévision.
Le problème, c'est que dans l'histoire, la forme prend le pas un peu sur le fond parce que tout n'est pas inintéressant dans ce qu'il dit, mais à un moment, est-ce qu'on ne va pas gadgetiser, entre guillemets, la manière de le faire?
Où est-ce que la communication ne va pas empêcher les gens d'écouter le contenu?
Exactement.
Et là, moi, j'ai été très, très perturbée par les petits messages sur l'époux et sur la maîtresse. Et je pense que je n'ai pas été la seule, d'ailleurs.
Une chose, si je m'encourage, cette semaine dans l'Obs, il y a l'interview de François Hollande, et on a dit à quel point François Hollande avait un problème avec la communication. Est-ce qu'on passe pas d'une sous-communication à une hyper-communication d'un coup entre les deux ?
François Hollande aussi, il a testé toutes sortes de formats. Oui. Hein, est allé sur M6, il est allé sur France 2, il a répondu à toutes sortes de journaux, il a fait voilà. Et ça n'a pas marché. Et dans son livre, il dit il fallait pas qu'on, enfin voilà, il fallait trop parler, c'est pas bon. Alors c'est pas le cas de Macron qui mesure ses apparitions chaque trimestre, mais là c'est vrai qu'il y a une intensification, mais il y a aussi un contexte.
C'est ça, oui, bien sûr.
Il faut répondre sur beaucoup de choses. Donc, il a choisi d'honorer ces deux rendez-vous. Et il faut savoir qu'il veut aussi anticiper l'anniversaire. Parce que il y a une étape qui est redoutable maintenant pour les présidents, ce sont les anniversaires. La première année, les trois premiers mois, la première année, la deuxième année. Et il se souvient que François Hollande s'était fait avoir par BFM en 2013.
D'accord.
BFM avait fêté un anniversaire un peu sévère.
Ah oui, d'accord.
Il y avait beaucoup de difficultés pour François Hollande à ce moment-là. Et il était démuni. Donc, moi, je pense que Macron tire les enseignements de ça et anticipe. Et là, il est en train de brûler la priorité à tous les médias. Il va être le premier, finalement, parce que ça va être ça, le thème de l'entretien de dimanche.
Dimanche soir,
ça va être le premier anniversaire de son mandat. Et il va fixer lui-même l'ordre des cérémonies. Il va faire son bilan.
Voilà. D'accord. Alors, on va continuer, nous, à en parler. On va rentrer dans les questions économiques. Dans un instant, on parlera, bien sûr, de la SNCF, hein, puisque le président de la République a également évoqué ce sujet. Vous le savez, la nouvelle journée de grève a commencé donc dès ce soir. Qui devrait se poursuivre vendredi et samedi. De tout ça, on en parle dans un instant, dans la suite, pour les informer de France Info.
L'infotrafic SNCF. Demain, une grève perturbe le trafic des trains. Pour être informé en temps réel, téléchargez l'appli SNCF et enregistrez votre trajet. Retrouvez aussi l'infotrafic sur sncf.com. Pour permettre à chacun de voyager dans les meilleures conditions, des gilets rouges sont présents en gare pour vous orienter. Et pendant les grèves, votre trajet de covoiturage Idevroom est offert. Voir conditions sur idevroom.com.
Restez connectés à France Info.
Toute l'actualité, des alertes, des vidéos avec l'application mobile
France Info.
France Info Météo, avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, récoltés à la main par les petits producteurs dans le respect de la biodiversité. À retrouver sur malongo.com.
Et à Météo France, on retrouve Elodie Calac.
Les pluies orageuses du sud-est se calment progressivement ce soir. Demain matin, on aura encore des averses entre le sud des Alpes, la Côte d'Azur, le sud du Massif central et le Languedoc-Roussillon. Attention, le risque d'avalanche restera fort sur le sud des Alpes. On trouvera des averses aussi sur le nord-est. Ailleurs, ce sera plus calme avec des éclaircies plutôt belles entre le sud-ouest, le centre, la Bourgogne, le nord de Rhône-Alpes. Ce sera plus encombré sur le nord-ouest en région parisienne au nord de la Seine avec des nuages bas. Il fera 5 à 10 degrés. L'après-midi, des averses et parfois un orage sur les régions du sud. C'est sur les Pyrénées, le Languedoc-Roussillon, les Bouches-du-Rhône et les Cévennes qu'il pleuvra le plus. Le vent atteindra 80 km à l'heure. Et puis au nord, ça s'éclaircira. De bons moments de soleil, seulement quelques averses. Ce sera doux, 14 degrés à Brest, 17 à Lille et à Nantes, 18 degrés à Paris, Strasbourg, Clermont-Ferrand, Marseille, 19 à Agen et 20 à Grenoble.
Avec meilleurtaux.com, comparez les assurances auto. Économisez 335 euros en moyenne et bénéficiez d'un mois offert, quel que soit l'assureur. Conditions sur meilleurtaux.com, courtier inscrit à l'Orias.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, c'est Emmanuel Langlois, bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu, bonsoir à tous. La grève des cheminots, elle a débuté tout à l'heure à 20h. La direction de la compagnie prévoit plus de trains en circulation pour ce troisième épisode de mobilisation des salariés. Prévision de trafic pour demain, donc avec Sarah Lemoine, depuis le siège de la SNCF à Saint-Denis.
Tout d'abord, le taux de déclaration des grévistes est en baisse. Il est de 38%, c'est 10 points de moins par rapport à début avril, lorsque le mouvement a débuté, indique la SNCF. Alors cela se traduit par un plus grand nombre de TGV en circulation pour la journée de demain. Il y en aura 200 contre 140 lundi dernier. La SNCF a fait un effort particulier en ce début de vacances pour la zone C, en mettant à contribution des cadres réservistes. Concrètement, il y aura un TGV sur trois en moyenne nationale, et 40 000 places restent disponibles pour les TGV à l'achat pour la journée de demain, indique le numéro 2 de l'entreprise Mathias Vichra. Concernant les intercités, la circulation s'améliore également avec un train sur 5 prévu demain. Pour les TER, 36% du trafic sera assuré contre 30% lors de la dernière journée de grève. Et cette fois, il y aura plus de trains et moins de bus, assure la SNCF. Même tendance à la hausse pour les transiliens, avec 2 trains sur 5 assurés. Dans le détail, il y aura un train sur 2 sur le RER A et 2 trains sur 5 sur le RER D.
Sarah Lemoine. Emmanuel Macron interrogé pendant une heure ce midi sur TF1. Le chef de l'État a assuré qu'il entendait les inquiétudes, notamment des seniors et des ruraux, tout en affichant sa volonté de poursuivre avec la même force, a-t-il dit, les réformes. Oui, on doit aller jusqu'au bout, a-t-il dit notamment à propos de la réforme de la SNCF, en ce moment discutée à l'Assemblée, de la hausse de la CSG à la limitation de la vitesse à 80 km/h. Emmanuel Macron a justifié et défendu toutes les décisions prises par le gouvernement. Elle n'avait pas participé à la mobilisation nationale des fonctionnaires le 22 mars dernier. La CFDT Fonction publique appelle cette fois ses adhérents à se joindre à la nouvelle grève des agents de l'État lancée par 7 syndicats pour le 22 mai prochain. Après les expulsions au début des opérations de déblaiement des squats détruits sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, les forces de l'ordre sécurisent toujours les alentours. Il faut dire que la tension demeure vive avec une dizaine de gendarmes blessés dans une embuscade aujourd'hui. Une dizaine d'universités toujours totalement ou partiellement bloquées par des agitateurs professionnels, dénonce Emmanuel Macron, qui conseille aux étudiants de réviser leurs examens. Ils ne seront pas, promet-il, en chocolat. Les opposants dénoncent la réforme de l'accès à l'université qui s'apparente, selon eux, à une sélection. Au moins 16 morts et 14 blessés dans un attentat à la bombe commis lors des funérailles de combattants irakiens. Ils avaient été tués hier par le groupe État islamique. La bombe a explosé au passage du cortège funéraire au sud de Sharqiyat, l'un des derniers bastions repris à Daesh dans le nord du pays. Il est 20h33, les informés suite et fin.
Les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag Les Informés également sur le canal 27 de la TNT. Et eux, malgré le fait que Michel Sardou va commencer son dernier concert de sa vie dans quelques secondes, était-on vraiment prêt à entendre cette nouvelle un jour? Je ne sais pas. Eh bien, ils sont tout de même venus. Bravo à eux. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent Isabelle Vera, Masson, directrice du laboratoire communication et politique du CNRS, Sylvain Courage de l'Obs, Mathieu Alterman du Point Pop et Yannick Halimi du Parisien aujourd'hui en France. Si Emmanuel Macron a choisi le 13h de TF1, c'est avant tout pour parler aux retraités, mais il a également parlé aux centenaires, voire triple centenaire, puisqu'il n'a pas hésité à employer le mot. Donc on l'a dit carabistouille, ce qui après croquignolesque, poudre de perlimpinpin, chicaïa et broutard, nous confirme que Emmanuel Macron a bien 40 ans, mais qu'il a été congelé en 1920 en fait, à l'âge de 40 ans et décongelé il y a simplement 5 ans. De carabistouille, il n'y en a point au niveau économique pour le chef de l'État, et notamment en premier lieu les retraités. Certains d'entre eux, vous le savez, sont en colère contre la hausse de la CSG pour ceux dont le revenu fiscal de référence excède 1200 euros mensuels. Et le président de la République les a remerciés pour cet effort. Yannick Halimi, est-ce que c'est assez ce qu'a fait le président de la République aujourd'hui pour les retraités?
Bon, écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est pas les retraités qui vont se mobiliser dans les rues, mais
non,
on verra
pourtant,
ça
tient quand même depuis longtemps maintenant, cette mobilisation des retraités.
Ah oui, d'accord. Non, mais ce que je voulais dire, c'est pas eux qui vont manifester ou faire la grève, quoi. Par contre, on va voir ça dans les urnes.
Et oui, tout à fait. Est-ce qu'ils votent? Ils votent.
C'est le corps social, si je puis dire, qui vote le plus. Ouais. Donc, alors c'est très bien de leur avoir dit merci, mais Emmanuel Macron est quand même extrêmement droit dans ses bottes, on l'a dit, parce qu'il ne leur a rien donné en compensation. Il leur a dit merci, ok. Il leur a réexpliqué qu'il faisait un effort, c'est très bien, qu'il faisait un effort pour les jeunes, pour les actifs, c'est très... Mais même une mesure dont on avait parlé, que je résume de façon un peu elliptique, qui est la demi-part fiscale pour les conjoints survivants, donc qui émanait même de sa majorité, qui aurait pu être une sorte de sparadrap, de petite compensation, il l'a explicitement repoussé.
Ouais,
la
ça.
Question avait été posée. Donc Emmanuel Macron, il est très dur.
En gros, Sylvain Courage aussi, il a dit, bon, les retraités, pour moi, ce n'est pas des portefeuilles, je les remercie, voilà, merci.
Non, il ne les prend pas pour des portefeuilles, mais il ne leur fait pas de cadeaux. Donc partie de la phrase. Non, il est resté droit sur sa ligne, sa politique qui consiste à faire à procéder à un transfert entre les inactifs et les actifs. Et donc, c'est un effort national. Il a expliqué les enjeux. Je suis pas sûr que ce soit de nature à changer l'état d'esprit des retraités, qui vont rester durablement hostiles, à mon avis.
Vous pensez que c'est un risque, comme le disait Yannick Halimi, électoralement, parce que comme ils votent, en fait.
Ils ont voté quand même massivement pour lui, même s'ils votaient aussi beaucoup à droite et,
Ils ont voté pour François Fillon.
Ils ont voté beaucoup pour François Fillon, mais effectivement, ça érode sa base.
Ouais. Ah, mais je pense pas comme vous. Moi, je pense qu'au contraire, les retraités aiment qu'on leur dise la vérité, même s'ils ne sont pas d'accord avec le... J'ai écouté les réactions...
Ça n'empêche pas.
Non, mais j'ai écouté aujourd'hui les réactions sur de nombreuses radios de retraités qui disaient, oui, c'est vrai, nous ne sommes pas contents, mais au moins, il ment pas, quoi. Il avait annoncé qu'il ferait ça, il le fait, voilà, il n'y a pas un truc un peu tordu, et je pense que cette base électorale est plutôt sensible à un langage vrai, comme ça, même si ça ne va pas exactement dans le sens, ils attendent.
Peut-être, mais je me suis rendu à quelques meetings ces dernières semaines de Laurent Wauquiez, et je peux vous dire qu'il y avait énormément...
Ah oui, bien sûr, oui, d'accord.
Oui, c'est un vivier, et Laurent Wauquiez, fort intelligemment, a bien compris que c'était là aussi une terre de reconquête pour les Républicains, et je peux vous dire, alors bon, ça n'a rien de scientifique de ce que je vous dis là, mais il y avait quand même...
Laurent Wauquiez scientifique, ça fait quand même... Non,
mais ce que moi, je dis, moi, je peux l'être, oui, personnellement.
Bien sûr.
Voilà, dans ces meetings, enfin, ou dans ces réunions, plutôt que ces meetings, il y avait beaucoup de personnes du troisième âge. Alors, même c'est un risque.
Sur le plan électoral, c'est vrai que les retraités votent beaucoup et que ce sont aussi des opinion leaders. C'est-à-dire que, vous savez, qu'on sait que le comportement électoral se fait non pas directement à travers les médias, mais parce qu'à travers la conversation qui passe par les gens en qui on a confiance. Et c'est vrai que les personnes âgées, on n'est pas très vieux quand on est retraité, peuvent aussi tenir un discours qui peut avoir de l'influence. Donc, je crois qu'il a eu tort de sous-estimer cette partie électorale.
Mais en même temps,
je ne vois pas très bien l'intérêt.
Parce qu'il y a un sentiment chez beaucoup de retraités aussi d'être considéré, quand on dit des retraités riches à 1200 euros, c'est l'incompréhension, ouais, en fait.
En début de mandature, en général, on pratique au début des réformes dur, quoi, et on sait qu'en fin de mandat, on ouvre un peu, on fait des cadeaux. Voilà, on sait que d'ici 2 ans, il va distribuer.
Il compte beaucoup, en fait, sur la fin de la taxe d'habitation. En fait,
voilà, sur la taxe d'habitation.
Avant les élections. Il doit produire ses effets avant les élections et donc rasséréner les retraités.
Une chose, c'est ma courage, il a repris sa métaphore de premier de cordée, mais alors là, ça a été un peu complexe. Peut-être, je n'ai pas suivi, parce que comme disait Christophe Castaner, le président a une pensée trop complexe pour nous, il a déclaré « la cordée n'avance qu'à la vitesse de la corde ».
Et on peut galoper. On peut galoper.
Voilà. Alors, c'est
un exercice de géométrie.
Oui, on va dire ça.
Sur le plan. Non, mais il a expliqué d'abord que la corde était solide parce que c'était la nation. C'était
ça.
Ce qui nous reliait, c'était donc il y avait un premier de cordée, mais qu'il y avait des liens entre nous et qu'il y avait un lien solide qui nous assurait et que effectivement la cordée devait progresser du même pas.
Oui.
Le premier peut pas aller trop vite.
Excusez-moi, Sylvain, mais...
Et le dernier, il a parlé de galoper.
Oui, non, il a parlé de galoper pour les réformes. Mais pour...
ce qui est drôle, c'est que le président est un grand fan de Michel Audiard.
Il
place toujours des mots, des expressions. On a l'impression un peu qu'on est dans la cuisine avec Bernard Blier.
Justement, j'ai mis quand même cette histoire de...
Un peu de goût de pomme,
voilà,
effectivement.
De premier de cordée, on voit... Bon, là, il s'est un peu emmêlé les pinceaux. Mais on voit, il y a quand même toujours cette théorie du ruissellement. Il en a parlé, il y croit toujours.
Non, le ruissellement, après on peut le croire, on peut pas le croire, il a bien vu que ça le menait dans une impasse. Donc non, là c'est pas tellement le ruissellement, c'est quand même plutôt le saint-simonisme, si je puis dire, c'est-à-dire que ceux qui ont les compétences ou l'argent aident les plus jeunes qui eux-mêmes redistribuent, c'est une sorte de vivification, de spirale vertueuse, si je puis dire. Donc, le ruissellement, non, ça, il s'en écarte.
Il faut dire que le thème du premier de cordée lui est venu parce que Jean-Pierre Pernaut lui a posé la question.
Oui, bien sûr.
Parce qu'il sait, il a compris, parce qu'il y a déjà eu des critiques, que les Français détestaient les premiers et que notre passion de l'égalité faisait que ce genre d'image n'est pas bonne. En revanche, l'image qu'il a utilisée cette fois-ci, qui est l'image de la maison, sur laquelle on doit construire des bases solides et qu'ensuite on doit construire avec des matériaux solides et dans lesquels on vit ensemble sans qu'il y en ait un qui s'élève au-dessus des autres, ça me semble meilleur.
Ah, très bien, oui. Ben, Jacques Chirac l'avait employé, mais en disant que la maison brûle, donc il faut faire attention quand on utilise ça aussi. Allez, l'info à 20h40, Marc Potvin.
Entre les chaises d'écolier et les pots à crayons, Emmanuel Macron a été interviewé ce midi sur TF1. Il est revenu sur la limitation à 80 km/h sur certaines routes, mesure très impopulaire. Si ça ne marche pas, on ne la gardera pas, affirme le président. L'expérimentation sera généralisée à partir du 1er juillet pour 2 ans. Épisode 3 de la grève perlée à la SNCF. Le trafic demain sera moins perturbé que lors des séquences précédentes. En tout cas, d'après la direction, elle table sur un TGV et un TER sur 3 en moyenne. Pour ce qui est des transiliens, comptez 2 trains sur 5. Le groupe de Tarnac était une fiction, affirmation du tribunal correctionnel de Paris à l'issue du procès Tarnac aujourd'hui. Les deux principaux prévenus, Hildune Lévy et Julien Coupa, sont relaxés du chef d'association de malfaiteurs et dégradation d'une ligne SNCF. Ce jugement intervient après 10 ans de procédure. L'attentat d'aujourd'hui en Irak est le plus meurtrier dans le pays depuis 3 mois. Au moins 16 personnes ont été tuées et 14 blessées à Asdira dans le nord. Deux bombes bombes ont explosé au passage d'un cortège funéraire. Il transportait des combattants irakiens tués par le groupe État islamique. Et puis le dernier concert de Michel Sardou ce soir, ça se passe à la scène musicale à Boulogne-Billancourt près de Paris. Le chanteur quitte la scène, mais il reste sur les planches. Il n'abandonne pas sa carrière au théâtre.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Je sais, Jeannick Halimi, vous êtes fan de Michel Sardou. Merci d'ailleurs d'être là ce soir. En tout cas, on vous sent très ému. Voilà, on va continuer malgré tout, excusez-moi, à parler d'Emmanuel Macron et surtout du dossier chaud du moment, à savoir la SNCF demain. Donc, vous l'avez entendu, sixième jour de grève à la SNCF. Les prévisions de trafic, je vous le rappelle, sont pour les Transiliens 2 trains sur 5, TER 1 train sur 3, TGV 1 train sur 3, Intercité 1 train sur 5. Si vous êtes Francilien ou Occitan, organisez-vous bien, car les vacances commencent demain. Et Emmanuel Macron, donc le président de la République, a souhaité bien sûr en parler avec Jean-Pierre Pernaut aujourd'hui, et il a caressé les cheminots, mais avec un grand craint. On l'écoute, Emmanuel Macron.
Moi, je respecte les syndicats et ils ont leur place dans le dialogue social. Et donc, ils défendent des intérêts légitimes qui sont ceux de leurs salariés. Je leur dis juste, n'ayez pas de crainte illégitime. Et donc, la SNCF, ça restera à 100% public et ce sera dans la loi. Et les cheminots qui sont aujourd'hui cheminots, ils resteront cheminots.
Voilà, Emmanuel Macron, Sylvain Courage, ça va changer quelque chose, cette parole au mouvement?
Non, enfin, il laisse une porte entrouverte quand même, parce qu'on sait qu'il y a des syndicats réformistes, la CFDT et l'UNSA, qui peuvent éventuellement trouver un terrain d'entente et qui permettraient de rompre ce front syndical qui est quand même
uni pour l'instant.
Donc il dit, il respecte les syndicats, mais sinon il change rien. Il répète ce qui a déjà été dit par le gouvernement, c'est-à-dire oui, l'entreprise restera entre les mains de l'État et les cheminots présents dans l'entreprise garderont leur statut, mais pour le reste, il a dit, on ira jusqu'au bout.
Oui, c'est ça, on ira jusqu'au bout, comme Édouard Philippe l'avait déclaré également.
Comme Édouard Philippe, il a clarifié les choses. Le fait que ce soit le président de la République qui le dise, ça indique quand même, ça donne une tonalité encore plus forte dans le cadre des négociations et de la mobilisation sociale que l'on connaît tous. Alors effectivement, il a reprécisé de façon très claire les capitaux publics, les petites lignes régionales qui ne seront pas fermées, oui, même si elles sont dévolues.
Et financées.
Voilà, et qui sont financées. Mais troisième point, où là, il y est allé, bah alors c'est par nuance, un tout petit peu plus fort, de façon un petit peu plus accentuée que Madame Borne, la ministre du Travail, et Édouard Philippe, c'est sur l'endettement. Il l'avait dit explicitement, Édouard Philippe, mais que elle n'était pas destinée cette dette à rester à la SNCF, puisque la SNCF devenant une entreprise à capitaux privés, elle aurait fait faillite. Donc il a bien ouvert une porte. Enfin, confirmer que la porte était ouverte pour la négociation
pour
de la dette.
Pour aller dans votre sens, en effet, parce qu'aujourd'hui, on va parler dans un instant aussi de ces discussions qu'il y a eu à l'Assemblée nationale sur la loi, donc réforme ferroviaire, et donc dans cette loi, il n'y a pas du tout, on ne parle pas de la dette. Emmanuel Macron, lui, en a parlé en disant l'État va dès le début en reprendre une partie, et puis progressivement, mais surtout l'État va investir 10 millions d'euros par jour pendant 10 ans. Voilà, c'est ça. Isabelle Vermasson, est-ce que les propos là qu'on a pu entendre, c'est aussi sur la dette, est-ce que ça peut apaiser, amener quelque chose dans ce conflit aujourd'hui, où plus personne, on voit bien que c'est toujours aussi dur. Hein.
Alors, je crois que la présence aujourd'hui d'Emmanuel Macron à la télévision, c'était déjà d'intervenir sur les questions d'actualité. Je ne sais pas si on l'a dit tout à l'heure, ouais. C'est-à-dire que son silence paraissait pesant. Il a beaucoup critiqué la communication de ses prédécesseurs, mais ses prédécesseurs avaient d'une certaine manière créé une certaine habitude dont il est difficile de se défaire pour les téléspectateurs. Et donc, il fallait qu'il intervienne sur tous ces sujets-là. Et il a choisi, alors je reprendrai sans de votre image, il a choisi un gant, mais il semble que c'était un gant de velours, mais que la main était de fer. Oui, il n'y avait pas que le gant de crin. Et c'est très clair qu'il ne bouge pas. J'ai entendu quelqu'un me dire l'autre jour, qu'elle avait trouvé que c'était incisif, un peu dur, la manière dont il prenait les choses. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de place à aucune négociation. Donc on sourit beaucoup, on est dans les couleurs acidulées, mais on ne bouge pas. Et je ne suis pas sûre que les cheminots, malgré la référence au grand-père qui était cheminot, et senti une quelconque complicité à l'égard de leur inquiétude.
Mathieu Alterman.
Bon, moi je vais dire gant en caoutchouc,
parce
qu'il met la main dans l'eau sale, il ne veut pas se... Voilà. Non, mais à la limite, cette histoire, elle est déjà finie. C'est-à-dire qu'on sait tous que la grève ne va pas aboutir à un changement de la part du gouvernement. on le sait, hein, ils ne vont pas changer, ils ne vont pas revenir là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui va se passer à la SNCF dans les années à venir, alors qu'aujourd'hui, elle est très impopulaire auprès des Français, qui ne comprennent pas cette grève. Le problème, il est là. Comment ils vont faire pour s'en sortir avec une concurrence qui va arriver, une image aujourd'hui qui est très très moyenne, puisque l'immense majorité des Français sont quand même pour la réforme. Donc, c'est ça l'intérêt, parce qu'on sait que c'est déjà fini. La grève, ils n'obtiendront pas ce qu'ils veulent.
Mmh. Voilà. Alors, justement, on va entendre un syndicaliste de CFDT, Cheminot, qui lui a écouté donc, le président de la République, et ben, il n'était pas vraiment convaincu par ses propos sur le sujet de la SNCF. On écoute Didier Aubert, donc de la CFDT Cheminot.
En aucun cas, il n'a fait d'annonce qui permettrait de financer les infrastructures ferroviaires, de libérer la SNCF de cette dette qui l'empoisonne dans le cadre de son budget et de son financement.
Voilà, donc Didier Aubert, la CFDT Cheminot sur BFM. Donc on le voit aussi, Jean-Yves Calimi, là, il n'a pas du tout convaincu. Il y a d'autres propos également, Sudrail, qui disent non, on n'a pas compris.
Oui, parce qu'effectivement, je vous trouve quand même un petit peu optimiste. Je ne sais pas dans quel sens il faut se mettre, mais enfin un petit peu catégorique. Quand même, il ne faut pas oublier que si Emmanuel Macron, un an ou pas de présidence, intervient aujourd'hui et intervient dimanche, intervient deux fois, c'est que tout de même, la situation est grave pour tout le monde. On est quand même dans un contexte de mobilisation sociale importante du côté d'Emmanuel Macron. On vient de perdre quand même des élections partielles, législatives, et qu'il faut faire très vite au regard aux yeux d'Emmanuel Macron, parce que les rendez-vous électoraux européennes et puis après municipales, c'est dans deux ans, mais tout ça va très vite, vont très vite arriver. Donc, il y a quand même, je pense, parce qu'on dit pourquoi Emmanuel Macron a ouvert ce front-là maintenant. Après tout, c'est vrai que le statut, on pense qu'on veut, c'est en partie responsable de tout ce qui se passe à la SNCF, mais seulement. Il aurait pu se contenter de la libéralisation, etc., etc. Sauf qu'il voulait toucher au statut et que s'il y touche dans 6 mois, dans 9 mois, on arrive quand même à la veille d'élections. Donc voilà, et il y a quand même, la messe n'est pas dite. Il y a quand même un bras de fer.
Gouvernement n'a rien à perdre dans l'histoire. Ils n'ont rien à perdre.
Quand même, rien à perdre si la situation se gangrène.
Ce ne sera pas 95.
S'il y a une coagulation, on n'en sait rien.
Enfin, non, ce ne sera pas 95 parce qu'en 95, la majorité des Français soutenaient les grévistes.
Elle avait changé d'opinion.
L'opinion publique est
L'opinion justement, pour l'instant, de plus en plus soutient le gouvernement.
Alors, en 95, ne sont pas. Mais je veux dire par là que la feuille n'est pas écrite et que si Emmanuel Macron est sorti du bois encore une fois, c'est qu'il estimait qu'il devait le faire parce que la situation demandait à être clarifiée et donner un acte. Et moi, ce qui m'étonne dans tout ça, je termine là, on verra ce qu'il va dire dimanche, c'est qu'il a fait. Alors, il est resté droit dans ses bottes, etc. Il a fait très peu d'annonces.
Ah, bien sûr, oui.
On attendait quand même, y compris dans sa majorité, quelques éléments forts. Certains voulaient plus social, un peu plus de gauche, entre guillemets, ou peut-être une autre, des mesures d'autres dimensions, j'en sais rien, mais il n'a rien annoncé du tout, sauf sur l'intéressement.
Ah, c'est ça. Moyens pour l'hôpital, quand même. Il a dit.
Oui, un grand plan
pour l'hôpital et pour les personnels soignants avant l'été. Enfin, ça laisse quand même augurer.
Une chose,
c'est quand même très fou.
Une chose qui m'encourage quand même, on était sur la SNCF, mais aujourd'hui, l'Assemblée nationale a achevé les discussions autour de la réforme ferroviaire, donc ils ont acté l'ouverture à la concurrence ou le changement de statut, donc ça sera un vote sans surprise devrait avoir lieu, mais est-ce que là, les syndicats peuvent encore espérer quelque chose, justement? Parce qu'il va y avoir des ordonnances, il y a une loi, et à partir de là...
À partir du moment où les textes principaux vont être adoptés, c'est sûr que...
On nous rappelle toujours le CPE.
C'est pour ça que la dette reste le point où les choses peuvent bouger, parce que comme c'est pas compris dans le dispositif législatif, du coup, on peut discuter de ça. Ce qu'il faut, c'est trouver pour l'État un système progressif, parce que si on reverse la dette brutalement dans les caisses... dans les comptes de la nation, c'est la dette publique globale qui va exploser
ce que
ça pose
François
des problèmes.
Aujourd'hui,
Donc il faut qu'il trouve un montage financier. Mais Emmanuel Macron est un banquier et donc peut-être qu'il va trouver une astuce, une structure de défaisance, système. Voilà.
C'est ça. Allez, on va continuer en parler dans un instant. L'info à 20h50. Marc Potvin.
La Russie demande une nouvelle réunion du Conseil de sécurité de l'ONU demain. Réunion alors que plusieurs pays occidentaux planchent sur une réponse à l'attaque de Douma en Syrie. La France n'a pas encore arrêté sa décision, mais elle a des preuves que des armes chimiques ont bien été utilisées à Douma. Emmanuel Macron l'a déclaré ce midi lors d'un entretien sur TF1. Parmi les autres sujets évoqués par le chef de l'État, les expulsions dans la ZAD à Notre-Dame-des-Landes. Tout ce qui était évacuable a été évacué, a déclaré le président. Une dizaine de gendarmes femme a été blessée aujourd'hui dans la ZAD. Elle est tombée dans une embuscade selon le ministère de l'Intérieur. Les zadistes parlent plutôt d'un face-à-face sur une barricade. 3 semaines après les attaques terroristes de l'Aude, le Super U de Trèbes a rouvert ce matin. Avant le retour des clients dans les rayons, une cérémonie a eu lieu en présence du préfet. 3 des 4 victimes des attaques terroristes de l'Aude ont été tuées dans ce supermarché. Sybille Veil à la tête de Radio France pour 5 ans. Son mandat débutera lundi prochain. Le CSA l'a nommé aujourd'hui après la révocation de Mathieu Gallet. Jusqu'à présent, Sybille Veil était directrice déléguée de Radio France en charge des opérations financières. Et puis de très nombreux fans de Jacques Higelin cet après-midi au Père Lachaise. Le chanteur a été inhumé dans ce cimetière parisien. Auparavant, une cérémonie a eu lieu au Cirque d'Hiver. Jeanne Chéral, Camille ou encore Catherine Ringer ont repris des chansons de Jacques Higelin.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous étions en train de parler de la SNCF, un nouveau mouvement social à partir de ce soir et vendredi et samedi. Je vous rappelle juste que les prévisions, Transilien, ça sera 2 trains sur 5 à partir de demain, TER, 1 train sur 3, TGV, 1 train sur 3 et Intercité, 1 train sur 5. Isabelle Vermasson, on voit bien que la SNCF, les étudiants, Notre-Dame-des-Landes, on voit aussi, par exemple dans les EHPAD, on voit aussi les retraités. On voit qu'il y a différents fronts comme ça de colère. Est-ce que, même si ça ne prend pas, le fait que ça dure comme ça dans le temps, est-ce que ça peut être embêtant pour un gouvernement, un moment à gérer, comme ça, ces colères ?
Bien sûr, bien sûr. Et ce qui me frappe beaucoup, c'est le caractère énervé de ces luttes. C'est-à-dire que la hauteur de ton. Quand on voit ce qui est les graffitis dans les universités, les slogans qui sortent à droite, à gauche, dans les EHPAD, enfin, on a le sentiment qu'un incident pourrait arriver. C'est-à-dire que moi, je trouve, quand on voit quand même le niveau de vie, la manière dont les gens vivent, on ne comprend pas cette hauteur de la révolte, de la haine parfois. Alors c'est vrai qu'en plus on est influencé par les réseaux sociaux, mais pas que.
Parce qu'aussi il y a des fractures qu'on avait vues avant. Présidentielles qui reviennent tout simplement aussi en France, qui ont été un peu effacées le temps médiatique de la présidentielle et qui aujourd'hui ressurgissent.
Oui, ou alors peut-être qu'il y a eu un espoir comme ça qu'on n'a pas tellement vu, parce qu'on ne peut pas dire que l'élection d'Emmanuel Macron, ça a été un grand espoir national. Mais en tous les cas, cet énervement que je trouve dans les luttes, je pense que c'est un danger pour les hommes politiques, parce que un blessé, un excès, une violence, enfin, on a vu quand même... Moi, j'ai trouvé assez frappant ce portrait d'Emmanuel Macron brûlé dans les flammes. Donc... cet énervement peut laisser craindre quelque chose. Et d'ailleurs, je trouvais que l'intervention d'Emmanuel Macron se voulait être apaisante.
Enfin, oui, bien sûr.
Il en a rajouté dans les amabilités.
Même ce qu'il a dit à propos des 80 km/h, tout le monde se calme.
Tout le monde se calme. Voilà, on a le sentiment qu'on n'est pas loin d'un incident un peu ridicule.
Sauf qu'en même temps, avoir une opposition radicalisée, ça profite à Macron.
Oui, ah bah c'est toujours.
Bien
oui,
sûr.
Alors oui.
Parce qu'il dit regardez en face l'opposition.
Ah bah. Si ça ne fait que peur, oui. Mais s'il se passe quelque chose qui peut retourner l'opinion.
Moi, ce que j'ai vu en tout cas dans les universités, ça fait quand même un petit peu peur.
Oui, ça fait peur.
Vraiment.
Alors, Jeannine Calimi.
Non, je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez. L'élection d'Emmanuel Macron n'a pas soulevé de grand enthousiasme. Alors, je ne parle. Si dans certaines parties, dans une partie de la population, ça a correspondu quand même. Souvenez-vous, changement de personnel. Personnel, politique, on sort des partis, rajeunissement, et puis dans un monde entouré de populisme du côté de Trump et en Europe.
Content, oui.
Je termine. Donc si, ça n'a pas seulement été un pis-aller au regard pour certains de la candidate du Front National. Ça a correspondu à un élan, en tout cas pour beaucoup, et réellement positif. Mais le danger, et c'est là où je vous rejoins, c'est que 11 mois après ou un an après, ou peut-être 18 mois après, les espoirs étaient tellement élevés pour toute une partie de la population, qu'il ne faut pas qu'ils déçoivent.
Ouais, c'est
voilà.
Ça.
Et alors, c'est là qu'est peut-être le piège pour Emmanuel Macron.
C'est d'accord. On le voit quand même aussi de plus en plus. Au début, quand il a été élu, Emmanuel Macron, on se disait et de droite et de gauche. Et pourtant, c'est un sondage la semaine dernière. Hein, c'est que les Français qui considèrent de plus en plus En Marche comme un parti de droite.
Oui, bah parce que sa politique, est identifiée comme une politique de droite. Alors ça exaspère d'autant plus l'opposition de gauche radicale, parce qu'on oublie qu'il y a quand même une opposition de gauche radicale qui est forte et qui s'exprime. l'esprit, mais qui a sa stratégie, son agenda. La majorité écrasante de Macron, le fait qu'il présente sa politique comme une politique raisonnable pour laquelle il n'y a pas d'alternative, ça radicalise, ça exaspère et ça crée cette...
Et pas seulement à gauche, parce qu'on voit aussi à droite, c'est vrai, Laurent Wauquiez, qui est quand même, faut pas oublier, c'est le premier parti d'opposition.
Mais parce qu'il a un pouvoir qui est central et qui est fort, et donc les oppositions se radicalisent, s'exaspèrent.
Oui, Mathieu Alterman.
Oui, les oppositions se radicalisent, mais c'est pour ça que ça prend pas, parce qu'on parle par exemple les insoumis, les résultats des dernières législatives partielles, ils sont à 11% et En Marche, ils étaient à 41 à peu près. Voilà quoi, 11-41, donc je pense qu'effectivement, c'est une opposition. Bon, Macron doit être ravi d'avoir cette opposition-là pour l'instant, mais on parle des gens mécontents, évidemment qu'il y a des mécontentements. Bon, dans les universités, vous avez vu les revendications.
Les revendications, c'est contre la réforme en effet universitaire. Ça concerne surtout les lycéens, en fait, véritablement.
Voilà,
c'est qui ne bouge pas. Oui, c'est ça.
La SNCF, c'est sur le statut des cheminots qui ne sont pas engagés. Donc, ce ne sont pas des revendications qui portent une influence extrêmement large sur la population non plus. C'est quand même sur certaines catégories de personnes. C'est quand même très, très... Bon, on est sur de la niche, on va dire.
Voilà. Très bien. Allez, en tout cas, on aura l'occasion, bien sûr, d'en reparler. Merci beaucoup, Isabelle Vermasson, d'être passée ce soir aux informés de France Info. Merci, Mathieu Alterman. Yannick Halimi, la une du Parisien, aujourd'hui. Alors, en France, demain.
C'est une enquête singulière au Parisien sur le problème des effets indésirables des sodas sur le foie.
Ah oui, bien sûr. Mais en ce moment, en plus, on parle beaucoup, en effet, de ces boissons ultra sucrées. Et Simaco, donc la une de l'Obs sur...
François Hollande qui nous a donné un grand entretien.
Très bien, voilà, exactement. Il est temps pour nous de retrouver Jean-François Aki. Bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu.
Pour Tout est politique au programme ce soir.
Suite du débrief de l'interview présidentielle avec Valérie Boyer des Républicains, Aurélien Taché de La République En Marche, Olivier Dartigol du Parti communiste français et avec Frédéric Dabi de l'IFOP.
Tout est politique, c'est dans quelques minutes sur France Info.